Et nous accueillons Leslie au 3921. Bonsoir Leslie.
Bonsoir.
Comment allez-vous Leslie?
Oh, ça va, il y a un petit peu de stress, un petit peu de peur, je pense.
Alors vous, voilà, Leslie, vous êtes américaine.
Tout à fait.
Et vous vivez du côté de Toulouse.
Oui, à Toulouse même.
Alors, ses origines américaines, vous êtes née dans l'Oregon, hein, c'est ça?
Oui, dans l'Oregon, tout à fait. J'ai passé toute mon enfance dans l'Oregon et après, j'ai vécu aussi 4 ans dans le Texas.
D'accord. 4 ans au Texas?
Oui.
Mais lorsque vous étiez étudiante
Oui, tout à fait. J'ai fait mes études, enfin une partie de mes études au Texas.
Oui.
Voilà. Et sinon, donc jusqu'à mes 18 ans, j'étais dans l'Oregon. Et puis entre 18 ans et 22 ans, j'étais à Houston.
Donc, si je compte bien, hein, et si je m'en remets à mes légères connaissances de cette histoire américaine, vous avez goûté à l'esprit Bush, hein, puisque c'était la famille Bush là-bas, quand vous étiez là-bas, non?
Complètement. Alors, quand Bush était réélu, j'avais tout juste déménagé à Houston, justement. Donc ça, c'était une expérience aussi. C'est vrai que dans l'Oregon, il se trouve que c'est un État qui est assez à gauche. Et surtout, la ville où j'étais, à Portland, donc me retrouver à Houston... avec tout l'argent du pétrole, et puis Bush, il vient de Texas même, hein, donc c'était déjà une première expérience assez bouleversante, en fait.
Oui, oui, oui.
Voilà. Mm-hmm.
Bouleversante pourquoi, en fait? Parce que Bush avait la réputation de ne pas être un fin politique, ou c'est parce qu'il était républicain, tout simplement?
Je pense que, enfin, tout simplement, dans le milieu où j'étais, enfin, plus jeune, c'est pas que je connaissais pas des gens, enfin, je connaissais des gens qui avaient voté pour Bush, hein, c'est pas la question, mais je pense que je n'avais pas goûté justement à cette ferveur un peu républicaine, justement. C'est vrai que Houston, c'est un peu une utopie républicaine, quoi. Enfin, c'est vraiment une ville comme l'aile conservatrice des politiques aux États-Unis aimerait que le monde soit comme Houston, en fait.
Alors,
voilà.
Bien évidemment, j'entends ce que vous dites, et vu que vous vivez maintenant du côté de Toulouse, ça doit considérablement vous changer, parce que l'esprit de cette belle ville de Toulouse et de ce sud-ouest français, il est formidable. Hein, il est surtout épris de liberté. Hein, les gens de Toulouse et de tout le sud-ouest ont ce goût de la liberté, je trouve. Il y a quelque chose qui se dégage de là-bas qui est particulier. Justement, vous qui vivez maintenant en France, Leslie, est-ce que cette différence, vous la ressentez en tant qu'Américaine, vous la sentez vraiment aujourd'hui? Je parle bien évidemment de nous, Français, qui voyons les Américains au Texas, hein, notamment, acheter des armes pas possibles, aller à des foires aux mitraillettes, vous voyez, à toutes sortes d'armements. Bien évidemment, au Texas, la peine de mort. Toutes ces choses qui nous paraissent tellement éloignées, nous, de ce qui ressemble à une démocratie, en forme, vous voyez, une démocratie saine. Vous qui vivez en France aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce Texas que les Républicains aimeraient voir s'étendre à tous les États-Unis?
Alors, j'étais passée par Paris quand même, entre Texas et Toulouse, il faut le savoir, mais c'est vrai que quand j'ai quitté l'Oregon pour le Texas, j'avais peut-être plus l'impression de vivre dans un pays étranger que quand j'ai quitté le Texas quand j'ai quitté les États-Unis pour la France.
Oui.
Disons que Paris, peut-être l'esprit à Paris et à Toulouse aussi, ça correspondait peut-être plus à ce que j'avais vécu à Portland que ce qu'il pourrait avoir comme rapprochement entre l'esprit entre Portland et Houston, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on oublie un petit peu assez souvent, un peu souvent, c'est que les États-Unis, c'est un pays qui est très vaste, avec une diversité justement d'avis et de styles de vie qui est très différent. Disons que, enfin, j'ai vécu vraiment les deux choses. Enfin, c'est vrai que au Texas, il y a des choses qui sont très très étonnantes. Enfin, on débat encore, voilà, comme vous dites, la peine de la mort,
sur l'avortement,
le droit
me semble-t-il.
Voilà. Ouais. Oui, complètement. Hein. Ce sont des débats qui sont très courants. Mais c'est pas non plus limité, je pense, au sujet. Sociaux, c'est aussi sur le plan économique, hein, parce que à Houston, par exemple, il n'y a pas de plan d'urbanisme qui fait que on peut avoir des commerces complètement étonnants juste à côté des résidences. Enfin, ça fait une ville qui est étendue dans l'espace. Enfin, aucun transport en commun, en tout cas très mauvais. Enfin, tout le monde a une voiture, mais pour autant, en fait, les loyers sont pas chers du tout. Donc, ça veut dire qu'on peut y vivre, enfin, dans un appartement très confortablement, sans forcément avoir un grand salaire. Donc, enfin, voilà, quand je parle d'utopie, c'est pas, enfin, voilà, c'est, disons que c'est un monde qui spécial, quoi. Enfin, qui les valeurs sont pas les mêmes. Enfin,
et au Texas, par exemple, en fait, les supports de justement de les anti-IVG, ceux qui supportent la peine de mort, ceux qui supportent en fait le port d'armes et la possibilité d'acheter des armes pour se défendre. Est-ce que c'est une grande majorité? Est-ce que c'est une majorité écrasante au Texas ou en fait c'est plus ou moins partagé entre une population 50-50? Comment vous sentiez les choses là-bas?
Alors, c'est intéressant de parler du Texas parce qu'en effet, c'est un État, justement, le Parti démocrate voudrait bien que ça, enfin, pense bien que ça pourrait devenir justement beaucoup plus à gauche dans les années à venir. Bon, est-ce que c'est un rêve, enfin, est-ce que y a un élément de réalité ou pas? Alors, si je devais mettre un pourcentage, je dirais peut-être que entre 55 et 60% des Texans sont
républicains.
Enfin, oui, ils sont républicains et qui sont du coup aussi pour le port des armes, contre l'IVG et pour la peine de la mort. Enfin, on le voit. Hein, j'ai très bien vécu, hein, parce que de temps en temps, je faisais du bénévolat dans une association justement qui aidait les femmes à avoir accès aux contraceptifs, et il y avait des manifestants dehors, enfin tous les jours, tous les jours. Donc on le voit complètement. Après, il faut pas croire non plus que c'est un monolithe. Enfin, il y a aussi beaucoup de jeunes.
Oui, c'est pour ça que je vous posais cette question, parce que on parle toujours du Texas, on parle de Bush, on parle justement de la peine de mort, de tout ça. Sauf que je suis allé au Texas, moi, et j'ai rencontré des gens formidables. Il y a des groupes de rock qui sortent du Texas et qui sont totalement talentueux et qui, bien évidemment, ne sont absolument pas républicains. Donc, j'ai senti une jeunesse, un milieu artistique extrêmement prononcé. En même temps, on comprend, hein, plus c'est dur, plus l'art ressort là-bas. Et c'est pour ça que je me suis posé la question dernièrement si finalement le Texas, qu'on représente comme un des États les plus durs des États-Unis, quelle était la proportion. Et vous voyez, finalement, quand vous dites que c'est un 40-60, on n'est pas si loin d'un 50-50. Bon, on est à 40-60, bien évidemment. Oui. Mais y a quand même une résistance là-bas. L'histoire, cette jeune histoire, les 10 dernières années, avec l'élection d'Obama d'abord, qui a marqué... Mm-hmm. Est-ce qu'elle a marqué un réel changement, cette élection d'Obama, ou finalement, est-ce qu'elle a amené Trump pour vous?
Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir aussi que pendant les deux mandats d'Obama, je vivais déjà en France. Donc, je n'ai pas forcément vu, enfin, je l'ai vu que par les témoignages de mes proches, évidemment, enfin, voilà, en parlant avec des gens qui vivaient encore là-bas. Alors, c'est vrai que quand il a été élu, moi, je l'ai vécu comme un réel changement. Ne serait-ce que pour ce qu'il représentait, en fait. Parce que, bon, c'était le premier homme noir. de, enfin, qui occupait ce, ce poste, pour nous, c'était pas rien. C'était pas rien à cause de l'histoire de l'esclavage qu'on a dans, dans notre pays, malheureusement. Et il avait aussi un programme qui était très, très progressif par rapport à même ce qu'il avait fait Clinton. Oui, qui était le dernier, enfin le président avant démocrate d'avant, avant Bush. Donc pour moi, enfin oui, ça allait dans le bon sens, quoi. Enfin moi j'étais contente de comment ça se passait. Et puis il avait quand même réussi à faire des législations qui n'avaient pas été faites avant, c'est-à-dire notamment sur la santé. Et aussi quelques réformes par rapport à l'immigration, je pense, qui étaient assez importantes. Est-ce que ça a amené Trump? Oui et non. Enfin, je ne pense pas qu'Obama il soit vraiment responsable de Trump. Je pense que c'était plus les circonstances de son mandat, notamment la crise financière. La crise financière, du coup, qui est arrivée en 2008, en même temps qu'Obama, hein, d'ailleurs. C'était à lui un peu de récupérer tous les, enfin, voilà, de ramasser les pots cassés, quoi. Et en fait, ben, finalement, on s'en est sorti, mais tout le monde s'en est pas, enfin, le résultat n'était pas pareil pour tout le monde. Il y avait quand même des parties de la population qui vivaient dans le misère, quoi. Enfin, on n'a pas réussi à faire sortir tout le monde de cette crise, hein. Enfin, et d'ailleurs le problème n'est pas que aux États-Unis, je pense, c'est un peu partout pareil, qui fait que en fait à la fin du deuxième mandat, bah il y avait des gens qui étaient dans des situations pas forcément qui sont intenables. Donc à côté de ça, il y avait une candidate chez les démocrates qui était Hillary Clinton qui était j'ai souvent entendu dire qu'elle était antipathique. Elle avait pas trop de charisme. Enfin moi, je la voyais pas comme ça. Enfin, c'était pas forcément.
Moi non plus. Mais je ne suis pas américain en même temps. Mais moi, surtout, c'était l'atout premier et qui pouvait marquer l'histoire dans cette élection américaine. C'était une première femme à la Maison Blanche. Je crois que ça, il y avait quelque chose de très porteur d'espoir dans tout ça. Et puis, finalement, si on parle d'un charisme entre Hillary Clinton et Trump. Bien évidemment, tout dépend où l'on met le curseur du charisme. Entre un curseur de vulgarité, vous voyez, et finalement de télé-réalité, puisque comme Reagan, Trump est un présentateur de télé-réalité. C'est un businessman ultra endetté. C'est quelqu'un qui est dans un charisme très particulier, hein, si on appelle ça le charisme. Elle ne paraissait pas antipathique à beaucoup d'Américains, Hillary Clinton, me semble-t-il.
Non, parce qu'il y a quand même plus de la moitié des Américains qui ont voté pour elle. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier plus. Hein. C'est le système des grands électeurs qui a fait que finalement Trump il a eu le poste. Je le voyais pas non plus en tant que, enfin, moi je le voyais pas. Non, j'aurais pas dit qu'elle était antipathique. Je pense qu'elle avait un énorme bagage. Elle avait un énorme bagage par rapport à son mari, qui a eu le poste avant elle. Elle a eu aussi un bagage par rapport à ce qu'elle avait fait pendant le mandat d'Obama.
Je pense qu'elle tenait la route.
Secrétaire de l'État, donc, enfin, c'est comme le ministre des Affaires étrangères. Enfin, c'est un rôle qui est un petit peu caché. Enfin, quand on est dans le pays, en fait, on ne se rend pas compte forcément de tout ce qui se passe diplomatie.
En France, en tout cas, Leslie, on sait combien ce rôle de ministre des Affaires étrangères est un rôle essentiel. Hein, et c'est très curieux qu'aux États-Unis, ça soit, comme vous le dites, vous faites bien de le souligner, un rôle qui est finalement peu repris et en fait apprécié par les Américains à sa juste valeur. On va marquer une petite pause si vous le voulez bien, et puis on va continuer à vous écouter nous parler de votre ressenti d'Américaine à l'approche de cette nouvelle élection ce soir, et puis surtout vous écouter dans votre ressenti de ce premier mandat de Trump. J'aimerais que voilà, vous me racontiez un petit peu comment vous l'avez vécu, vous, de loin. A tout de suite, Leslie.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
22h51, vous êtes sur votre libre antenne sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à nous appeler au 3921. Florian et Natacha vous attendent en régie. Pour l'instant, nous échangeons avec Leslie, américaine de 34 ans, née dans l'Oregon, ayant vécu une partie de ses études au Texas, et puis qui a rencontré l'âme sœur, puisque vous avez rencontré votre compagnon actuel. Il y a combien de temps, en fait, que vous vivez en France, Leslie ?
12 ans.
12 ans, d'accord. Et vous êtes arrivée par amour en France ou par quel chemin ?
Alors, pas du tout. Enfin, j'ai débarqué à Paris pour mes études, en fait. Voilà, donc je suis musicienne, en fait, de métier, dans le classique. Donc, je voulais travailler mon instrument avec un maître, un professeur qui était à Paris. Et je pensais rester un an en France. Et ben non, parce que je suis tombée amoureuse, et puis avec un Français, et un Toulousain d'ailleurs, et au final, je suis restée. Voilà.
Bon, et ça se passe bien, vous êtes heureuse d'avoir pris la décision de vivre ici ?
Oui, alors j'adore la France. Enfin, d'ailleurs, maintenant je suis française aussi, j'ai la double nationalité depuis 3 ans. Donc voilà, j'ai vraiment construit une vie en France, et il y a énormément de choses que j'apprécie en France. Enfin, mais c'est vrai que maintenant, quand je rentre aux États-Unis, bon, ça fait un petit moment maintenant avec la pandémie. Mais quand je rentre aux États-Unis, j'ai souvent un petit peu le mal du pays pour la France, j'avoue.
D'accord. Et voilà. Comme ça, vu de loin, avec votre culture, cette culture américaine, mais cette richesse finalement de ce melting pot de votre culture américaine et de votre culture française, puisque aujourd'hui vous êtes aussi française, comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de Trump, en fait ? Parce que vous étiez aux États-Unis lorsqu'il est arrivé, ou vous étiez en France ?
Non, j'étais à Toulouse déjà.
Oui.
Et je l'ai mal vécu. J'ai mis un certain temps pour l'accepter parce que c'était c'était la surprise. Tout le monde pensait que Clinton allait gagner, et finalement c'était pas le cas. Par contre, alors je ne pense pas. Pas que je n'ai pas anticipé vraiment les dégâts. Donc, notamment dans cette dernière année 2020, voilà, il y a eu vraiment. À part la crise sanitaire, mais aussi toutes les institutions, la justice, par exemple, les réformes. Par rapport à l'immigration qui a mis en place, qui sont complètement qui sont aberrants, il est revenu aussi sur des réglementations par rapport au changement climatique. Il y a énormément de choses qui ont été complètement démantelées pendant ces 4 ans, et là d'après ce que je vois, c'est un pays qui est vraiment en crise, quoi. Où les gens ils n'arrivent plus à s'entendre les uns avec les autres. On n'arrive plus à avoir des dialogues, en fait, avec les gens qui pensent pas comme nous. C'est difficile, en fait. C'est très compliqué pour moi. C'est assez blessant. Enfin, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal de le voir, mon pays un petit peu en. C'est pas que je le reconnais plus, mais voilà, il y a eu énormément de dégâts, quoi.
Oui. Mmh. Et énormément de dégâts culturellement parlant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que Trump a réussi à museler finalement l'artistique, tout ce qui nous vient des États-Unis en fait en termes de musique, de poésie, de littérature, de cinéma. Est-ce que vous avez senti que tout ça aussi avait pris une claque ?
Non, j'ai pas senti ça. Je pense que justement la vie artistique continue. Nous les artistes on sait très bien faire ça voilà, the show must go on comme on dit.
Oui.
Donc après c'est peut-être justement la place de la culture américaine à l'étranger a été peut-être remise en question à cause de Trump. J'ai envie de dire. C'est-à-dire que maintenant, on va voir les Américains d'une manière différente. Et donc, du coup, tout ce qui est culturel qui vient des États-Unis, on va aussi le voir d'une manière différente.
Mmh. Et est-ce que vous pensez que la gestion du Covid est finalement le seul point qui va faire basculer Trump ? Parce que moi, lorsque des Américains me disent ça, je leur dis mais non, mais il y a eu... Il y a eu beaucoup plus loin que sa gestion du Covid. Il y a quand même la considération des États-Unis partout. Alors vous me direz, hein, au fin fond du Bayou, on sait qu'il y a l'Amérique profonde se fout de ce que les Français, les Italiens, les Espagnols pensent des Américains. Mais est-ce qu'il a entaché l'image des États-Unis et finalement donc contribué à sa chute?
Alors, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'Américains qui ne se rendent pas compte en fait de ce qu'on pense des États-Unis à l'étranger. Ça c'est sûr. Je suis pas convaincue que le Covid je pense pas que ça ait changé vraiment le. Non, parce que je pense que même donc le Covid, quoi, on le vit depuis février. Je pense qu'il y a vraiment la plupart des gens en fait qui savaient déjà pour qui ils allaient voter en février. Même il y a un an en fait. Mmh, mmh. Il y avait peut-être quelques personnes qui n'avaient pas décidé justement, qui ont vu la gestion de la crise, mais il n'y a pas eu que la crise.
Ouais, qui a peut-être fait balancer. On va continuer à en parler après, parce que moi, ça me passionne hein, d'avoir une vraie américaine, parce qu'on entend beaucoup de journalistes et tout ça, et c'est bien d'avoir la vie d'une américaine. Vous restez avec nous, on laisse passer l'info sur Europe, et puis on se retrouve juste
okay.
Après. À tout de suite. 23h passées de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 hein, et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Une libre antenne aux couleurs des États-Unis ce soir, puisque Europe 1 est avec vous toute la nuit pour cette élection du président des États-Unis. Donc à partir d'1h, n'oubliez pas, vous serez avec toute la rédaction d'Europe 1 qui vous accompagnera au fur et à mesure que cette élection avancera. Pour l'instant, nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Nous parlerons de cette élection aussi. Nous en parlons d'ailleurs avec Leslie qui nous raconte, vue de Toulouse et en tant qu'américaine, qui nous livre son ressenti par rapport à cette politique américaine, ce beau pays des États-Unis qui s'apprête peut-être à changer de président. Alors justement, Leslie, changer de président, cela veut dire que Joe Biden ce soir serait élu. Mais il y a tout de même une peur, une crainte que nous, Français, avons du mal à saisir, à comprendre, parce que chez nous, il y a des élections et puis qu'il y a un perdant et que le perdant appelle le gagnant, bon, comme ça se fait aux États-Unis. Mais là, il y a tout de même la menace d'une explosion aux États-Unis. Est-ce que... Elle est réelle. Est-ce que vous, en tant qu'Américaine, vous la sentez, cette pression, et est-ce que vous y croyez à cette possible explosion ?
Je pense que c'est possible, oui. Je pense que c'est possible. En fait, tout dépend des marges. Tout dépend aussi si le vote se passe bien. Donc là, je regardais les actualités apparemment, pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, il n'y a pas eu de fusillade dans les bureaux de vote. Donc, bon, pour l'instant, ça a l'air assez calme. Bon, c'est quand même étonnant qu'on soit arrivé jusqu'à là. Jamais j'aurais pensé ça, mais bon, nous voilà. Je pense que si Biden est élu avec une marge importante, je pense que il y aura pas trop non plus de, comment dire, Trump, il aura pas trop son mot à dire.
Oui.
Mais ça dépend aussi des gens qui l'entourent, hein, parce qu'il n'est pas tout seul non plus dans son bureau. Il a aussi justement des gens qui travaillent pour sa campagne et d'autres personnes dans le parti justement qui... Voilà, donc si les autres républicains justement ils disent mais non, c'est de la triche, c'est aberrant, inadmissible, etc., c'est là où justement je pense que ça risque peut-être d'exploser, mais par contre si les autres républicains ils disent au contraire bah non, écoute mec, t'as perdu, je pense que là ça va se calmer, mais je je suis pas vraiment capable de savoir si ces personnes là en fait, disons que les autres personnes du parti républicain en fait, s'ils ont quelque chose à gagner justement à dire, à inciter justement à la violence, quoi. Mmh.
Elle pourrait se traduire comment, cette violence, en fait? Trump refuserait la défaite et on verrait des milices investir les rues. Comment vous l'imaginez, vous?
Exactement. C'est exactement ça.
C'est très grave, très grave.
C'est assez grave. Enfin, par exemple, là où je suis née, dans l'Oregon, donc c'est la ville de Portland, c'est là où il y a eu les manifestations cet été, justement, contre le racisme. Et il y a déjà eu des problèmes, enfin, entre des groupes qui venaient de plus à l'est dans l'État. Justement, c'est un milieu un petit peu plus, enfin, beaucoup plus rural. Voilà, là, pour le coup, les gens, ils portent des armes, ils savent très bien s'en servir, etc. Donc, ils sont venus en ville menacer les manifestants. Enfin, c'est déjà arrivé, hein.
Je pense
C'est pour ça que les gens, ils flippent. Hein. Moi, je flippe aussi. Hein.
Vous avez des amis là-bas, en fait? Vous avez des amis qui vous parlent de cette crainte?
Complètement. J'ai ma famille qui habite toujours là-bas. Et oui, beaucoup. Enfin, voilà, tous les gens que je connaissais quand j'étais là-bas, ils sont toujours là-bas. Donc, non, la peur, elle est réelle, mais j'espère que ça ne reste qu'une peur. Enfin, encore une fois, ça dépend de la réaction
de
Trump et des républicains. Alors, si Trump s'il gagne. Comme il a gagné la dernière fois, c'est-à-dire sans gagner le vote populaire, mais quand même en remportant les grands électeurs, je pense qu'il risque d'avoir des manifestations, justement, des gens qui soutenaient Biden. Et là, pour le coup, ça va être plus des manifestations comme on a pu les voir, enfin, comme on a pu voir cet été, c'est-à-dire qu'il va y avoir du vandalisme. Pas forcément des fusillades à ce moment-là, mais enfin, non, je pense que dans les deux sens, en fait, c'est... c'est assez flippant quand même. J'y pense, voilà.
On connaîtra cette nuit, en tout cas, autour de 3h du matin, hein, me semble-t-il, on va connaître le nom du nouveau président des États-Unis ou l'actuel président des États-Unis.
Non, c'est pas sûr.
Non ? Vers quelle heure on devrait savoir ?
Ah ça pourrait être beaucoup plus tard, hein. Ça pourrait être... alors, tout dépend, parce que... Alors, ce qu'il y a eu cette année, c'est qu'il y a eu énormément de gens qui ont voté par correspondance, à cause de la pandémie. Les règles concernant le décompte de ces bulletins-là sont différentes selon l'État. Par exemple, en Floride, ils ont déjà compté tous ces bulletins qui ont été rendus. Donc, le Floride, on va le connaître, je pense, cette nuit. Mais il y a d'autres États, par exemple, dans le Nord, le Pennsylvania, d'autres swing state, comme on dit, où ils n'ont pas le droit d'ouvrir les bulletins avant aujourd'hui. Donc, il va falloir des semaines et des semaines pour compter tout ça. Mmh. Donc, si vraiment il y a vraiment très, très peu de marge et ça pourrait durer même plusieurs jours. Je pense pas qu'il faut pas s'apprêter à avoir le résultat ce soir.
D'accord. Dernière question, en fait, est-ce que vous craignez aussi, lorsque Bush a été élu pour son second mandat et qu'il y avait eu un balbutiement terrible sur l'état de la Floride, est-ce que aux États-Unis, aujourd'hui, Trump a le pouvoir de truquer ces élections. Est-ce que c'est aussi quelque chose auquel les Américains croient et peuvent s'attendre ? Auxquels ils peuvent s'attendre ?
Alors, je pense qu'il peut essayer, mais il n'a pas non plus tout le pouvoir. Il n'a pas tout le pouvoir. Alors, en 2000, ce qui s'était passé, c'est que Bush a gagné en Floride par vraiment très, très peu de votes. Et c'est du coup le concurrent Gore qui avait demandé que certaines circonscriptions soient recomptées. Mmh. Et au bout de quelques jours, en fait, c'est la justice qui a mis fin à ça. Ils ont dit, en fait, il n'a pas le droit. Donc, ça pourrait se faire, mais là je pense que le cas n'est pas tout à fait le même. Disons que s'il y a un gagnant par très très peu de marge, en fait je pense que ça a plus de chances d'être Biden qui est gagnant et du coup Trump qui demande que les votes soient recomptés, mais il peut recompter autant de fois qu'il veut. Bah, si Biden a gagné, il a gagné. Mmh, enfin, mmh. Je ne sais pas. Il ne peut pas vraiment truquer, non. Il ne peut pas vraiment truquer. Après, ce qu'ils peuvent éventuellement faire, est-ce que dans certains États, il y a déjà c'est déjà le cas, hein, c'est justement de rendre invalides des bulletins qui ont été envoyés par la poste ou des bulletins de vote qui ont été votés en avance. Donc, il y a eu plusieurs procès, en fait, déjà. Est-ce qu'on compte ses votes? Est-ce qu'on compte pas ses votes? Jusqu'à quand on peut compter les votes par correspondance? Enfin, et en plus, dans chaque État, c'est différent. Donc, c'est extrêmement compliqué.
Oui, parce qu'elle est compliquée hein, à comprendre pour nous, oui. Français, hein, cette élection. Vraiment, c'est pour ça que je pense que ouais. Tous les auditeurs de cette libre antenne apprécieront sans doute mes questions, parce qu'elles peuvent peut-être paraître naïves à celles et ceux qui connaissent un peu mieux cette actualité et cette politique américaine. Mais pour la majorité d'entre nous, c'est très compliqué.
C'est très compliqué.
Ne serait-ce que de savoir que Hillary Clinton a recueilli beaucoup plus de voix que Trump à la dernière élection, mais que les grands électeurs ont finalement, les représentants des États ont finalement voté pour Trump. Donc c'est un président qui a été élu avec moins de voix que sa concurrente. C'est particulier.
Bah ouais, je comprends. Hein. C'est vrai que c'est très particulier comme système, et c'est très compliqué. Même moi, enfin moi j'ai appris des choses cette année que je ne savais pas avant sur comment ça se passait dans d'autres États. Enfin voilà, donc les questions sont pas naïves du tout. Justement, c'est un système qui est très très complet. Et d'ailleurs. Je suis allée voter en France deux fois. Enfin, maintenant, j'ai le droit parce que je suis française aussi. Mmh. Et j'étais étonnée, justement, de la simplicité de la chose. Enfin, le bureau de vote, il était juste à côté de chez moi. Il n'y avait pas de queue. Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'aller-retour, j'ai peut-être mis 20 minutes. Enfin, c'est tellement simple. Enfin, c'est tellement bien, quoi. Enfin, c'est vrai que, pour le coup, je pense que peut-être en France, on a compris quelque chose aussi sur comment devraient se dérouler les élections. Ouais. Parce que pour les Américains, parfois, c'est compliqué. En plus, c'est le mardi qu'il faut aller voter. Les gens, ils travaillent, donc c'est pas tout le temps évident.
Vous avez voté quand, vous, en fait, Leslie, pour les États-Unis?
Alors, du coup, moi, je suis inscrite dans l'État où je suis née, c'est-à-dire dans l'Oregon. Et dans l'Oregon, en fait, ça fait déjà une vingtaine d'années que le vote n'est que par correspondance.
Ah oui, d'accord.
Oui, voilà. Donc, ça se passe comme ça. Donc, en fait, le pandémie ou pas pandémie, ça changeait rien pour les Oregoniens. Voilà, ça fait depuis que je suis en France, en fait, on m'envoie directement le bulletin chez moi, à Toulouse, et oui. puis je le renvoie. Je renvoie avec une signature. Il y a aussi une code barre qui permet de dire que c'est bien...
Vous.
Que c'est bien, voilà, que c'est bien moi.
Oui. C'est un super système, hein, ça. Hein. On peut reconnaître aussi le côté moderne hein, qu'ont les Américains pour ce type de système. On aurait ça en France, on aurait beaucoup moins de personnes qui ne votent pas. En fait, il y a beaucoup de Français qui ne votent pas parce que le week-end où ça vote, s'il fait beau, ils sont en week-end. Et, vous voyez, donc ce système-là finalement est très bien aussi.
Oui. Mais... Oui, après, je pense que c'est facile aussi, par exemple, d'oublier, de renvoyer le bulletin. Enfin, ça m'est arrivé, hein, pour les élections qui étaient un petit peu moins importantes. Enfin, les référendums, parfois, une loi que je ne trouvais pas forcément, enfin, qui ne me touchait pas spécialement, j'oubliais de renvoyer ou je n'avais pas renvoyé à temps. Enfin, donc, ça a aussi des inconvénients, je trouve. Mais c'est vrai que, par exemple, pour les personnes âgées qui ont parfois un petit peu du mal à se déplacer, même en temps normal, c'est bien, quoi, parce qu'on le renvoie par la poste. Après, l'Oregon, c'est un petit état. Enfin, c'est pas la population de la Californie, c'est pas le New York, enfin, mais ça fait au moins 20 ans qu'ils font comme ça, donc ça a pas changé, ça a rien changé pour nous.
Dernière chose, vous avez dit à Florian ou à Natacha que vous avez au téléphone que Trump n'a pas forcément l'amour du peuple américain, mais qu'en ce moment il y a un courant complotiste international, les QAnon, qui voit Trump comme une sorte de messie, travailleur de lumière, qui est en train de démanteler un réseau qui aurait son sein au niveau des élites démocrates. Les Américains, ils croient à toutes ces choses-là beaucoup. Hein. Ça reste visiblement important, ce culte du complot chez eux.
Franchement, je pense pas que les Français soient mieux. C'est peut-être pas ce complot-là, mais
c'est vrai, vous avez raison.
J'en ai rencontré beaucoup des complotistes français. Après, je pense que c'est peut-être un problème qui est beaucoup plus grand en fait que QAnon, qui est beaucoup plus grand que Trump. Enfin, le complotisme en ce moment,
c'est à la mode.
C'est quelque chose qui explose. Ah oui, oui, c'est très très à la mode. Mais je pense que c'est donc en partie bien sûr, enfin on le dit tout le temps hein, les réseaux sociaux, voilà qui répètent sans arrêt des informations qui sont fausses, mais aussi parce que en ce moment les gens n'ont pas confiance dans les pouvoirs publics tout simplement, donc ça engendre énormément de craintes, enfin de peur. Voilà, donc le complotisme, c'est pas limité à ce complot-là. Hein. Après, je suis incapable de dire combien de gens sont vraiment, ils croient vraiment au QAnon. Ça, je sais pas en fait. Je pense que c'est peut-être pas tant que ce qu'on pourrait croire. Et il y a aussi, je pense, une chose qui peut-être pas dit, c'est que récemment on a su que justement, il y a eu des scandales comme avec Jeffrey Epstein, des complots qui ont été vrais. Donc avec ça, en fait, je vois très facilement comment les gens ils n'arrivent pas forcément à faire la différence entre le vrai et le faux. Donc, je pense que c'est une époque très compliquée, en fait. On ne sait pas à qui faire confiance. On ne sait pas, s'il faut, demain, ça va être, je ne sais pas qui, finalement, qui se trouve, qui était, impliqué dans les scandales, pas possible. Enfin, c'est difficile en ce moment.
Oui, oui, c'est très difficile. D'ailleurs, il y a une excellente série en 4 épisodes qui en ce moment est sur Canal. Et je vous la conseille vraiment pour comprendre un peu comment fonctionne Trump. C'est sur le fonctionnement entre Trump et le FBI, tout ça, en apprenant comment fonctionnent les institutions, le Congrès. Et j'ai regardé ça avant-hier, et c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent, en tout cas, pour celles et ceux qui veulent un peu comprendre comment tout ça marche. Et surtout, voir la personnalité du président actuel, hein, il est encore peut-être pour quelques heures, c'est excellent, je vous la conseille, Leslie. Pardonnez-moi, je n'ai pas le titre de cette... je l'ai cherchée là et je n'arrive pas à la trouver, mais en tout cas, elle est sur Canal+ en ce moment et c'est vraiment, vraiment incroyable. En tout cas, c'est une série d'histoires, hein, et, qui traite justement de ces fameuses dernières élections durant lesquelles la Russie aurait... se serait introduite par le biais d'Internet et aurait influencé sur l'élection de Trump. Enfin, alors, il y a encore une théorie du complot derrière tout ça, mais enfin, il y a quand même des faits avérés.
Mais voilà, c'est ça, en fait. Disons qu'il se trouve que c'est vrai que les Russes ont interféré dans les élections. Enfin, voilà, ça aurait pu très bien être aussi une théorie de complot. Enfin... Au final, voilà, comme on n'a pas tous les faits...
Au final, il a fait 4 ans et ouais. Rien n'est sorti. Hein. Alors, je l'ai retrouvé, cette série s'appelle Comey, C-O-M-E-Y, Rule. Qu'est-ce que ça veut dire,
oui.
Comey, Rule? Ça veut dire quoi?
Alors, Comey, c'était l'ancien directeur.
C'est le nom du directeur du FBI, ouais, et Rule.
Voilà, l'ancien directeur, voilà.
Rule, c'est le rôle? La règle?
Oui, c'est ça, le règne, quoi.
D'accord. Le règne.
Voilà. Ou la règle, enfin, je ne sais pas dans quel sens, parce qu'on peut dire rule, ça, c'est voilà, le fait de régner sur quelque chose, mais aussi, c'est aussi une règle, enfin, c'est aussi un nom.
Bon, en tout cas, voilà. Sachez que cette élection américaine passionne les Français et les auditeurs d'Europe 1, puisque Eliane Delisle nous écrit qu'elle écoute, qu'elle est scotchée à CNN depuis 14 heures et qu'elle nous écoute aussi. Il y a aussi Patrick Leroutier qui, lui, fait référence au mur que Donald Trump a commencé à construire et qu'il. Et Patrick Leroutier est exaspéré par ce projet de mur. Et puis, il y a Sandrine, Clara, Hélène, Hervé. Eric qui nous envoie leur message donc d'encouragement pour cette nuit américaine. Donc merci à vous tous pour vos messages au 739-21. Mais écoutez, Leslie, merci mille fois pour votre intervention. C'était très intéressant.
Merci à vous.
Et puis croisons les doigts, hein, pour vous, pour nous, pour nous aussi, parce qu'elle est très importante, cette élection. Elle est très importante.
Je le sais.
Je ne sais pas si voilà, tout le monde a bien conscience que cette élection va énormément peser sur l'avenir du monde et que, voilà, que sans Trump, cet avenir serait sûrement beaucoup plus radieux, en tout cas. Bon, c'est ça n'engage que moi. Mais bon.
Je l'espère. Bon, passez
une bonne
soirée
nuit.
À vous, alors.
Au revoir,
oui.
Leslie.
Au revoir.
Au revoir.